L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Troisième épisode, le temps, les calendriers.
Il y a le temps, et puis aussi le temps. Le temps qu'il fait, et le temps qui passe. Quel que soit le temps, depuis la nuit des temps, qu'il change le jour qu'il passe.
Ah, le temps qui passe. Tous concentrés sur nos échéanciers ou sur nos agendas. Et puis, en cette période de l'Avent, nombreux sont ceux à suivre leur calendrier pour manger sa friandise en décomptant les jours pour voir venir l'une des plus importantes fêtes de l'année.
Et oui, Noël approche, mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous importer ici. Non, pas vraiment. Quelle civilisation n'a pas voulu comprendre, expliquer et calculer le temps? Et pourquoi l'ont-elles fait? L'histoire se fait au fil des calendriers.
Quelles sociétés ont forgé notre calendrier? Qu'est-ce que le calendrier raconte de nos sociétés? C'est le but de Clin d'œil à l'histoire aujourd'hui.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu appelles, ouais, là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
Raphaël, pour comprendre la question du décompte du temps, depuis quand savons-nous le compter?
Alors, je ne vais pas m'appuyer sur la grande phrase de Thierry Henry que nous venons d'écouter, parce que le temps, en fait, nous le maîtrisons depuis bien longtemps. Depuis le néolithique déjà, grâce à différentes observations astronomiques, nous sommes capables de fixer un calendrier, une année, à 365 jours. Ce décompte coïncide avec les grands événements de l'année, tels que les solstices et les équinoxes, qui sont autant de grandes phases, d'étapes du rythme agricole et de l'année solaire. Dans les civilisations du néolithique, elles revêtent en plus une portée spirituelle et religieuse. En témoignage de ce décompte du temps très précis qu'on peut avoir, on peut par exemple observer ce qui s'est fait à Stonehenge, dont les premières pierres ont été posées à peu près au 3e millénaire avant notre ère, vers 2800 si on veut être plus précis, avant Jésus-Christ. Et si on étudie la structure de ce site mégalithique, on constate qu'en fait, les pierres qui ont été posées sont alignées avec les premiers rayons du soleil qui apparaissent le jour du solstice d'été. Ça montre bien qu'on a déjà une grande, on va dire, capacité à observer les astres, que c'est quelque chose qui intéresse et que c'est quelque chose qui est spirituellement important. Mais outre le cas de Stonehenge, on remarque qu'il y a des exemples encore plus anciens sur le décompte du temps et l'étude d'un calendrier, puisqu'on trouve déjà un premier exemple à Napta Playa, qui est un site archéologique situé au sud de l'Égypte, et dont on date la construction dès le 5e millénaire avant Jésus-Christ.
C'est passionnant tout ça. Donc les hommes sont capables depuis déjà très longtemps de connaître avec une exactitude relative la durée d'une année, et ainsi sont capables de compter le temps. Quand nos calendriers ont-ils donc commencé à être plus précis?
En fait, assez rapidement. Hein. Les calendriers dont je viens de parler vont rapidement être divisés en quatre saisons grâce au découpage que sont les solstices et les équinoxes. Puis après en 12 mois. 12 mois donc, qui correspondent à 3 mois par saison et qui correspondent aussi avec les cycles lunaires que nous observons. Et la plupart des grandes civilisations, même de l'Antiquité, observent ce genre de découpage. On peut voir ça déjà en Mésopotamie, dans la cité de Babylone par exemple, ou encore dans de nombreuses cités méditerranéennes. Par exemple, chez les Grecs, un an égale déjà 12 mois, de 29 ou 30 jours, de sorte à correspondre exactement au cycle lunaire. Et pour combler le décalage qu'il y a, puisqu'on n'a pas évidemment le bon nombre de jours avec le cycle lunaire, on rajoute un mois tous les 3 ans. On retrouve aussi ce genre de découpage chez les Romains dès le 7e siècle avant notre ère, et eux vont se baser directement sur le calendrier solaire où une année égale 365 jours.
Sauf qu'une année, c'est pas tout à fait 365 jours.
Oui, d'où la nécessité de rajouter un mois tous les 120 ans. Bon, tout ça n'est pas très pratique. Et le problème va être résolu en 46 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César admet qu'une année égale en fait 365,25 jours, d'où la création des années bissextiles. Et Jules César, c'est à lui de s'occuper de ce genre de choses, puisqu'il est le Pontifex Maximus, c'est en gros le chef de la religion romaine, et donc il a tout à fait autorité pour prendre ce genre de décision.
Sauf que dans sa réforme calendaire, Jules César n'en reste pas là. Est-ce que c'est de là que vient le calendrier qu'on appellera le calendrier julien ?
Oui, tout à fait. Le calendrier julien est le calendrier qui a été réformé par Jules César. Et il va, à ce moment-là, changer pas mal de choses, en fait. À commencer par la naissance des mois de différentes durées. Avant cette transformation, l'année commençait aussi au mois de mars, en l'honneur du dieu de la guerre, et on décomptait ainsi les 12 mois. D'ailleurs, la trace qu'on a encore aujourd'hui de ce début d'année au mois de mars fait que le 7e mois est le mois de septembre, le 8e mois le mois d'octobre, novembre le 9e et décembre le 10e. Et Jules César, lui, va bouger à ce moment-là le début de l'année du calendrier julien et va le fixer au 1er janvier, qui est le mois janvier dédié à Janus. Janus qui est le dieu aux deux visages, incarnant le dieu, enfin qui est le dieu des débuts et le dieu de la fin. Donc c'est logique de le retrouver en début d'année à ce moment-là.
Est-ce que c'est aussi cette réforme qui va créer nos jours de la semaine ?
Oui, alors là c'est la même chose. En adéquation avec la religion romaine et les observations astronomiques, on va nommer les jours. Donc en latin, le mot dies est le mot jour. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dies à la fin de chacune de nos journées. Et nous avons donc le jour de la lune, le lundi, mardi le jour de Mars, mercredi le jour de Mercure, jeudi Jupiter, vendredi le jour de Vénus, samedi le jour de Saturne. Et dimanche est un nom de jour qui a été inventé plus tard, c'est le jour du Seigneur, le jour dominiqué. Donc ça, c'est une réforme encore qu'il y aura plus tard.
Raphaël, est-ce que les Romains ont encore influencé autrement nos calendriers ?
Oui, exactement, ils l'ont fait de façon mineure ensuite, puisque l'empereur Auguste a apporté quelques petites transformations mineures, notamment dans le choix des années bissextiles qui auront été les siennes. De même, le 7e mois va être rebaptisé et va être dédié à Jules César, justement, qui est le père adoptif d'Auguste, et devient donc le mois de juillet, le mois de Jules. Et il dure 31 jours pour bien faire honneur à ce père adoptif. Le mois suivant est lui aussi rebaptisé en l'honneur d'Auguste, qui est l'empereur alors à la tête de l'Empire romain, et il prend donc le nom du mois d'août. Et ce mois d'août fait lui aussi 31 jours, parce qu'il n'y a pas de raison que le mois d'août fasse moins de dure moins longtemps que le mois de juillet. Concernant la réforme sur le nombre de jours de semaine, le calendrier julien a aussi eu une répercussion sur le décompte des jours dans le mois. Nous avons des moments clés à chaque mois, les nones, les ides et les calendes, qui sont fixés bon, les 7, les 15 et au début du mois suivant en général. Donc le décompte des mois est différent chez les Romains. Par exemple, le 12 décembre est en fait compté comme étant le 4e jour des Ides de décembre. Donc c'est un système très compliqué qui sera par la suite abandonné. Et heureusement, parce que c'était vraiment un système très compliqué à comprendre.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Aujourd'hui, dans Clin d'œil à l'histoire, on parle donc de temps et de calendrier. Alors, nous venons de voir, Raphaël, avec le cas d'Auguste, qu'il y a aussi une certaine portée politique dans les calendriers. Est-ce que c'est aussi le cas dans l'Antiquité ?
Oui, et bien sûr, le décompte du temps est hautement symbolique politiquement. On le retrouve déjà chez les Grecs de l'Antiquité, où l'année prend son nom en fonction de l'archonte éponyme qui est alors nommé. L'archonta éponyme est une institution suprême dans la cité de la Grèce antique. L'archonte est quasiment considéré comme un roi et c'est lui qui a la plupart des compétences politiques. Et dans la plupart des cités, donc, on retrouve cet archonte éponyme qui donne son nom à l'année. Donc nous serons, mettons, à l'année de Pausanias et non pas à l'année comme on le décompterait aujourd'hui, forcément avec notre calendrier. De la même manière, on observe chez les Romains que c'est le consul qui donne son nom à l'année. D'ailleurs, la réforme de Jules César, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, fixait le début de l'année au début du mois de janvier, coïncide tout à fait avec le jour des élections de ces consuls-là.
C'est quoi l'influence de la religion dans ce calendrier de l'Antiquité ?
Alors, elle est essentielle, l'influence de la religion, puisque nous sommes dans le cadre d'une religion polythéiste qui est construite justement ses rituels et ses célébrations au moment clé de l'année. Or, nous l'avons vu, le calendrier naturel et agricole est connu de façon très ancienne, notamment par les Romains. Ainsi, dans le calendrier républicain, donc celui qui est avant la réforme de Jules César, le début de l'année coïncidait au mois de mars lors de l'équinoxe de printemps, ce qui correspond en fait à la naissance d'un nouveau cycle et au début de l'année agricole. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que, comme par hasard, on rend hommage à Bacchus, dieu de l'ivresse et des débordements, pour célébrer le retour du soleil et des récoltes. Citons encore les Saturnales, qui sont une célébration ressemblant au carnaval un petit peu, où toutes les classes sociales se mélangent, les maîtres servant les esclaves et inversement. Elles ont lieu au moment du solstice d'hiver et célèbrent aussi le moment où le jour va reprendre le dessus sur la nuit.
Quand est-ce que ces célébrations ont été abandonnées ?
Alors, en fait, est-ce qu'elles ont vraiment été abandonnées, ces célébrations ?
C'est la question.
Et elles ne l'ont pas vraiment été dans les fêtes. Si on regarde, je rappelle que l'Empire romain, qui étend sa domination sur l'ensemble du bassin méditerranéen, va peu à peu être christianisé au début des premiers siècles de notre ère. En 392 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose fait du christianisme une religion d'État. Et dès lors, même déjà c'était un petit peu le cas avant, les fêtes qui étaient païennes, les fêtes qui célébraient ces dieux polythéistes, vont être peu à peu remplacées par des célébrations chrétiennes, et ainsi les fêtes restent au même moment, mais ont un sens qui est quelque peu modifié. De cette manière, les fêtes comme les Saturnales, qui étaient l'un des points d'orgue justement du calendrier romain, sont remplacées par la naissance du Christ, la célébration de la nativité, le jour de Noël. On voit d'ailleurs ici une porte symbolique aussi, puisque Jésus, qui symbolise la lumière, arrive sur Terre au moment où les jours commencent de nouveau à s'allonger. De la même façon, on pourrait parler de la chandeleur, qui prend au fil des siècles un sens chrétien. Déjà dans des cultes très anciens, nous y retrouvions à cette occasion des plats qui ressemblaient à des grosses galettes de blé et qui symbolisaient en fait le retour du soleil. Et dans le calendrier chrétien, ce jour correspond en fait au 40e jour après la naissance du Christ, et c'est le moment où la Vierge Marie est en capacité de rentrer dans une église, puisqu'elle a de nouveau pu purifier son corps pendant ces 40 jours, présenter Jésus-Christ à l'assemblée des fidèles. Et ainsi, de cette manière-là, nous avons récupéré dans le calendrier chrétien la fête. Le pape Gélas Ier, au 5e siècle, aurait institué une distribution de galettes aux pèlerins présents à Rome. Et c'est sans doute de là que vient l'origine de nos fameuses crêpes de la chandeleur. Au Moyen-Âge aussi, on va trouver encore cet impact chrétien dans le calendrier, puisque dans certaines régions, nous allons fixer un début d'année en fonction des célébrations chrétiennes. Ici, dans le sud de la France, notamment en Lozère, c'était le cas, enfin dans le Gévaudan en tout cas de l'époque, c'était le cas, le début de l'année était fixé à l'Annonciation. Et l'Annonciation, c'est le 25 mars. C'est le moment où l'archange Gabriel vient sur Terre annoncer à la Vierge Marie qu'elle attend le Messie. Et donc, c'est 25 mars, c'est 9 mois tout juste avant le 25 décembre. Et donc nous avons ici notre début de l'année. Au nord de la France c'est encore différent, parce qu'on a tout ça qui n'est pas encore unifié. Au nord de la France, le début de l'année est fixé le jour de Pâques. Donc c'est en plus un début d'année fluctuant, ce qui ne facilite pas les choses, on va dire, pour les historiens d'aujourd'hui. Et progressivement, on voit que c'est l'ensemble du calendrier qui vient à se compléter de grands rites chrétiens que nous employons encore aujourd'hui. Et cela devient même un enjeu pour bien encadrer les fidèles au Moyen-Âge, de les inciter à se rendre régulièrement, accomplir ces rites chrétiens à l'église, pour bien conserver cette ferveur. Et d'ailleurs, on pourrait encore citer le temps de l'Avent dans lequel nous sommes, puisque l'Avent, c'est une période de purification avant la naissance du Christ. Donc, avant de célébrer cette grande fête qu'est la Noël, nous faisons le temps de l'Avent. Et on retrouve exactement la même chose avec Carême pour se purifier avant Pâques, où nous avons un jeûne de 40 jours, le Quadragésima, qui a donné son nom au Carême, pour nous purifier. Donc, on a vraiment des temps qui sont très longs et qui balisent l'ensemble du calendrier. D'ailleurs, si vraiment on observe les choses, on remarque que l'été, nous avons beaucoup moins de fêtes religieuses, notamment chrétiennes, parce que c'est tout simplement les moments où les fidèles n'ont pas forcément le temps de temps à consacrer aux événements religieux. C'est les moments où on travaille dans les champs, et mis à part l'Assomption qui a lieu le 15 août, nous n'avons pas vraiment de fête majeure.
Tout ça paraît logique. Nous sommes encore aujourd'hui sous ce régime de calendrier julien.
Alors, pas en Europe occidentale. Nous sommes maintenant rattachés au calendrier qui est dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII qui a réformé ce calendrier en 1582. Il a juste révisé un petit peu les années bissextiles pour les fixer cette fois-ci au 29 février de façon précise. Et le système des ides, des nodes et des calendes est lui aussi définitivement abandonné, et heureusement, dans les pays chrétiens, catholiques et protestants. Même si en fait, déjà au XIIIe siècle, en tout cas en Lozère, ce système de décompte était déjà abandonné.
Quel calendrier donc pour les autres continents ?
Alors, si on s'attarde sur le christianisme, on observe par exemple qu'on est resté au calendrier julien pour les orthodoxes, qui rejetaient l'autorité pontificale au XVIe siècle, et donc ils sont restés, on va dire, avec la tradition. Ce qui explique que dans les pays de religion orthodoxe, nous avons un calendrier qui est différent du nôtre. On peut aussi mentionner d'ailleurs à ce titre-là le cas russe, qui est un cas intéressant, puisqu'on est orthodoxe en Russie depuis le Xe siècle à peu près. Et vous avez justement ce calendrier qui était julien, qui a été brutalement abandonné par les bolcheviks lors de la révolution de 1917 pour rompre avec la tradition tsariste. Et on a adopté brutalement le calendrier grégorien au mois de janvier 1918 et on a tout bonnement supprimé 13 jours pour être raccord avec l'Europe occidentale, on va dire. Dans l'islam aussi, nous sommes dans un calendrier qui est très différent. On est resté sur un calendrier lunaire, donc on a des jours de 305, des années de 354 jours. Et surtout, le calendrier, l'ère dans laquelle ils sont, ne commence pas à l'an 1, la naissance du Christ, ce qui est logique, mais commence en 622, au moment de l'Hégire, le moment où Mahomet rejoint Médine. Citons encore que ce calendrier grégorien a pu faire périodiquement l'objet d'un rejet total, comme ce fut le cas par exemple lors de la Révolution française, lorsque les républicains tentent de diminuer l'influence de l'Église en créant leur propre calendrier révolutionnaire. La tâche de créer ce calendrier a été notamment confiée au poète Fabre d'Églantine, qui a l'idée de, je cite, consacrer par le calendrier le système agricole et d'y ramener la nation en marquant des époques et des fractions de l'année par des signes intelligibles ou visibles pris dans l'agriculture ou l'économie rurale. On voit donc comment le calendrier de nouveau se recalque avec la tradition agricole et ainsi on observe que le climat redevient central avec le cycle des saisons qui devient central pour la dénomination des mois. Vendémiaire, mois des vendanges, brumaire, mois de la brume, Nivose, mois de la neige, enfin bon, voilà, on retrouve tout ça. Et cela est aussi à mettre en rapport d'ailleurs avec la naissance de nouveaux rites nationaux qui viennent s'additionner à toutes ces célébrations culturelles païennes traditionnelles. Et c'est le cas par exemple des fêtes nationales qui viennent ponctuer là aussi notre calendrier pour, on va dire, fédérer la population autour d'un drapeau. Donc en France, nous c'est le 14 juillet qui célèbre non pas la prise de la Bastille, mais en fait le premier anniversaire de la prise de la Bastille qui est appelé la fête de la Fédération qui a eu lieu le 14 juillet 1790. Plus récemment, on peut citer d'autres moments clés de notre calendrier que j'ai envie de qualifier de républicain. Citons le 11 novembre, par exemple, ou encore le 8 mai.
Et ça fonctionne aussi pour des événements beaucoup plus récents et tragiques que nous avons récemment connus, comme les 7 janvier et les 13 novembre en France, qui ont aujourd'hui une connotation particulière pour nous, Français.
Oui, exactement. Et puis d'autres pays font exactement la même chose. On peut évoquer par exemple le 11 septembre pour les États-Unis, institué depuis 2002 et qui est le Patriot Day, la journée des patriotes. Nous pouvons aussi nous rappeler que nous connaissons l'influence justement de ces pays étrangers vis-à-vis de notre calendrier. On peut citer des fêtes qui se sont greffées de façon, on va dire, un petit peu artificielle, comme Halloween, au moment de la fête des morts, donc célébrée le 31 octobre, à la veille de la fête de la Toussaint, où là on célèbre tous les saints du calendrier. Pensons aussi au Nouvel An chinois qui peut venir ponctuellement nous donner l'occasion de la célébrer, ou encore le carnaval fêté au Brésil, mi-février, et qui correspond en fait au dernier jour de festivité avant l'entrée dans le jeûne du carême. Dans un pays où on est très chrétien, c'est logique.
De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative.
Traduction de...
Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein.
Ah, le temps. Nous avons donc vu que notre calendrier a subi une multitude d'influences depuis quasiment les origines des civilisations humaines.
Oui, nous avons des constantes depuis le néolithique, ce qui nous permet de nous racheter, de nous rattacher aussi à nos origines, où c'était le calendrier naturel qui était prégnant. Et on remarque qu'en fait, encore aujourd'hui, ce calendrier naturel, avec les solstices et les équinoxes, est encore fondamental dans notre construction calendaire. Et ça permet de créer ainsi des moments forts qui, même dans nos sociétés plurielles, cosmopolites, permet à chacun de s'y projeter selon sa croyance ou sa sensibilité. C'est ce qui nous permet finalement de nous retrouver tous à un moment précis pour célébrer à notre façon les moments forts de l'année. C'est le cas pour Noël, par exemple, et c'est ce qui nous permet de faire tous ensemble société et de célébrer ces grands moments ensemble.
C'est donc l'occasion pour nous de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, on se retrouve en 2021. Truc de dingue.
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches. Toi qui n'avais rien sur le dos, toi qui n'avais rien sur le dos, il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau. Il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras pas froid de si tôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. Tous les camés, tous les émaux, tous les camés, tous les émaux, il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux. Il fit rouler en avalanche vers les rubis dans tes sabots. Il a mis de l'or à ta branche, il a mis les mains sur tes hanches. Tire la belle, tire le rideau, tire la belle, tire le rideau. Sur tes misères de tantôt, sur tes misères de tantôt. Et qu'au dehors il pleuve, il vente, le mauvais temps n'est plus ton lot. Le joli temps des coups des franches, on a mis les mains sur tes hanches.